en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, En habit vert s'intéresse aujourd'hui à la carrière d'un grand immunologiste en activité à l'hôpital Saint-Louis à Paris, lieu phare de la recherche dans ce domaine. Né en Argentine, notre invité y fit ses études de médecine avant d'être invité par Jean Bernard à venir travailler auprès de Jean Dausset, deux grands noms de l'immunologie, deux grands noms aussi de l'Académie des sciences. Edgardo Carosella, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ici au studio de Canal Académie, au cœur même de l'Institut de France. Nous allons donc évoquer ensemble votre parcours de Buenos Aires à l'hôpital Saint-Louis, de votre rencontre, de vos rencontres bien sûr, qui ont, j'imagine, bien jalonné votre carrière, de vos années d'études chez les Jésuites, à votre entrée ici à l'Académie des sciences en tant que correspondant. Et nous parlerons bien entendu de vos travaux, notamment sur les antigènes HLA. Commençons, si vous le voulez bien, avant d'en venir bien sûr à vos travaux actuels à l'hôpital Saint-Louis, par vos origines. Alors, vous êtes de nationalité française.
Bien sûr.
Mais vous êtes né à Buenos Aires.
Tout à fait.
Alors, comment se fait-il que vous soyez né à Buenos Aires ?
D'abord, mes parents étaient d'origine italienne et d'origine espagnole. Donc, comme je suis né en 1951, et c'était une époque de forte migration, les années qui précédaient surtout, en Argentine. L'Argentine, c'était un pays qu'à l'époque, je crois que c'était le 7e pays au monde, la monnaie tout au moins, donc accueillait énormément d'étrangers. C'est comme ça que ma famille se trouva à Buenos Aires et je suis né là-bas. Buenos Aires, en réalité, c'était ça. C'était un énorme mosaïque des immigrés provenant de pratiquement, je dirais, toute Europe, n'est-ce pas ? Il y avait bien sûr l'Italie et l'Espagne qui prédominaient, mais il y avait aussi la France, avec laquelle il y a une très longue histoire entre la France et l'Argentine, l'Irlande, l'Angleterre, l'Écosse, les pays de l'Est. Presque tous les pays étaient représentés. Et ceci a mené à un ensemble culturel très important, à tel point qu'une romancière avait intitulé Buenos Aires « Les ports de l'extrême Europe ». Et c'était vrai, car on pouvait retrouver à Buenos Aires essentiellement, mais aussi dans les restes de Provence de l'Argentine, un petit morceau de l'Europe. Après, par exemple, la migration suisse, ils avaient installé à Bariloche. Évidemment, près de la cordillère, ça rappelait les Alpes. Mais ils se sont mis à faire du chocolat, comme à Bariloche aussi. Donc chacun, il s'installait dans un lieu géographique qui les rappelait beaucoup ses origines, mais qui les permettait aussi de faire une activité similaire, dont d'appliquer ce qu'ils avaient acquis en Europe. Les Irlandais étaient dans le sud. Et cela crée une distribution très intéressante, mais surtout, encore une fois, un échange culturel fort important.
Vous y avez fait vos études là-bas avant de venir ici en France. Je suppose que votre langue maternelle était l'espagnol ?
Oui, était l'espagnol. Mais comme vous savez, j'ai commencé à l'école normale. Alors, à l'école normale, à cette époque, il avait, je crois qu'il a toujours, un lien très étroit avec l'ambassade de France. Et pour la petite anecdote, on parlait constamment français, on devait parler constamment français. L'anglais, c'était la troisième langue, mais c'était les français d'abord. Et je me rappelle, en dernières années, que notre professeur de français nous amenait des disques, parce qu'à l'époque, il n'y avait que des disques, des les différents accents des différentes régions de France. Et je disais à un de mes copains, qui d'ailleurs était suisse, d'origine suisse, mais pourquoi je dois reconnaître les différents accents de la région de France? Que ça peut me faire imaginer que je deviendrai un jour français. Alors, moi, je quitte ensuite l'école normale. Mm-hmm. À cette époque, vous savez qu'on pouvait switcher pour médecine. Et donc, je quitte l'école normale pour entrer chez les jésuites et faire médecine. Donc, je ne termine pas la formation de professeur,
oui,
et je reste en quelque sorte instituteur, parce que quand on arrêtait comme ça, on était instituteur, mais on pouvait exercer comme professeur suppléant, jamais titulaire parce qu'on n'avait pas l'agrégation, des biologies, par exemple, puisque à partir d'un certain année de médecine, on peut médecine.
Vous avez enseigné de ce fait ?
Si, j'ai, non seulement j'étais instituteur dans les écoles primaires, et j'ai enseigné aussi dans les écoles secondaires, parce que l'université jésuite était une université chère. Et comme j'avais perdu mon père assez jeune, à 13 ans, bon, je n'avais pas des grands moyens pour pouvoir payer tout ça. Alors, donc, en même temps, j'ai enseigné et pendant l'été. En été, par exemple, encore une fois, je n'avais pas non plus le moyen de faire de grandes vacances. Donc, un ami de l'école normale m'a dit, mais écoute, pourquoi tu ne t'inscris pas au ministère de l'Éducation ? Et pendant l'été, comme ça, tu peux y aller comme instituteur rural. Et comme ça, tu passes quelques vacances tout en travaillant. Et il m'avait raconté des vacances formidables qu'il avait passées comme ça dans le Nord, et me disant, en plus, c'est super, tu verras les carnavals, parce que les vacances, c'est janvier, février, mars. Alors immédiatement, j'ai couru m'inscrire au ministère de l'Éducation nationale. Et là, ils m'ont envoyé à la Pampa. Donc j'étais instituteur rural en pleine Pampa. Vous savez, la Pampa, c'est quand même les desserts où il y avait les pumas. Il y avait
mais vous aviez choisi le calme, là, c'était, vous étiez servi.
Alors là, et donc j'ai passé tous ces mois-là, trois mois, bien février, mars, comme instituteur rural, et je garde un souvenir très cher.
Comment vous arrivez à être invité par Jean Bernard à venir en France ? Je suppose qu'il y avait une première rencontre, ou alors un échange épistolaire ?
Alors, d'abord, j'ai commencé ma recherche très jeune. C'est le professeur Loïs Bach, qui était mon professeur de microbiologie à l'époque. Il m'invite à travailler avec lui, comme jeune étudiant, à l'Académie de médecine à Buenos Aires, car il était le chef de service à l'Académie de médecine. C'était à l'Institut plutôt d'hématologie de l'Académie de médecine. Les directeurs de cet institut de recherche, c'était Alfredo Pavlovski, qui était une figure reconnu internationalement par un hématologiste très reconnu par la ponction ganglionnaire. C'était les premières qui avaient fait la ponction ganglionnaire, diagnostic des hémopathies malignes à travers une ponction ganglionnaire. Et donc, ils connaissaient très bien Jean Bernard. Donc, je commence à travailler, je termine donc mes études, et alors, me suggère de partir faire mon doctorat, mon postdoctorat à l'étranger, comme c'était l'habitude. Et à ce moment-là, Loïs Bachmann, il veut m'envoyer aux États-Unis, et je ne suis pas très convaincu de cela.
C'est ce que font les scientifiques le plus souvent, partir aux États-Unis.
Tout à fait, et je n'étais pas tout à fait convaincu. Je trouve donc l'attaché scientifique de l'ambassade de France en Argentine, que je connaissais. Je lui explique qu'en réalité, ça, je ne souhaitais pas aller aux États-Unis, je souhaitais venir en France. On m'a dit, bah, écoute, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Et alors, il va téléphoner Pavlovski, qui à ce moment-là, c'était le directeur. Il prend la nouvelle un petit peu étonné, comment quelqu'un de mon institut ne me parle pas, il va directement à l'ambassade. Surtout que c'était son domaine, ça. Et un jeudi, donc, je rencontre M. Pavlovski, qu'en regardant sur son microscope, me dit, en me tutoyant, c'était mauvais signe quand il tutoyait quelqu'un. Mais c'est toi qui étais à l'ambassade. Justement, je venais vous expliquer ça, monsieur. Et alors, il m'a dit, bon, écoute, donc je lui ai expliqué en réalité. Il m'a dit, bon, bah, écoute, c'est très bien, tu aurais dû me dire avant.
Par lui, hein.
Mais voilà que monsieur Jean Bernard, il s'est rendu, bon, je crois que c'était dans les mois prochains. Et donc, on va faire une chose. Je suis d'accord avec ton idée, mais tu vas lui présenter tous tes travaux et qu'est-ce que tu veux faire. Et c'est monsieur Jean Bernard qui décidera. Chose faite. Alors, à l'époque, c'était pas trop mal. J'avais déjà publié comme premier auteur dans des revues américaines. Celle de la Minerale. Je n'étais pas un grand review, mais c'était, d'ailleurs, c'était le numéro 2. Et donc, c'était pas trop mal. J'ai présenté tous ces travaux à M. Jean Bernard.
Un personnage un peu impressionnant.
Si, parce que. Enfin, on connaissait très bien parce qu'il venait tous les ans.
Je crois qu'il ne parlait pas beaucoup, non ? Et c'est quelqu'un d'assez discret.
Il était discret, mais très chaleureux quand même, était discret. Il s'intéressait beaucoup à ce qu'on faisait à l'Institut, donc il restait quelques jours en général. Bon, c'était les patrons qui présentaient les travaux. Là, c'était la première fois que moi, jeune, présentais quelque chose. Mais c'était un homme remarquable, c'est-à-dire pour lequel on avait un grand, grand respect pour ce qu'il avait fait et ce qu'il faisait. Et alors, bon, je les présente, mais c'est Jean-Bernard, c'était pas non plus un homme qui allait vous dire bravo, félicitations, il vous disait merci beaucoup, c'est très intéressant. Et voilà, donc vous pouvez pas savoir qu'est-ce que, si c'était bien ou si c'était pas mal. Bon.
Il est reparti ?
Il est reparti, et en rentrant en France, quelques semaines plus tard, je reçois la lettre d'invitation. Et tout part.
Il vous a pas emmené tout de suite avec lui prendre l'avion, il vous a laissé un petit peu poireauter.
Non, il est rentré, et je crois que deux semaines plus tard, il doit m'envoyer la lettre d'invitation. Et donc ensuite, se mettre toute l'administration en marche pour que je puisse me rendre à Paris. Et alors, à ce moment-là, je me rends à Paris, et Jean-Bernard me dit, bon, écoutez, suite à vos travaux, je crois que c'est M. Jean Dosset, c'est son équipe que vous devez rejoindre. Et donc, je retrouve l'équipe de Jean Dosset, donc c'était les années 76. Et depuis, on a travaillé toujours ensemble. Donc, ça fait 30 et quelques années que je suis avec Jean Dosset. Bon, maintenant, il est moins présent, mais toujours quand même, il me téléphone régulièrement.
Parce que je crois qu'il est au Baléares, c'est ça?
Absolument, il est au Baléares.
Il a décidé de passer sa retraite là-bas.
Bon, il a eu toujours une grande affinité pour l'Espagne. Son épouse était espagnole. Au départ, c'était la France qui envoyait des organes, de reins surtout, pour être greffés en Espagne. Et maintenant, avec la pénurie d'organes que nous avons, c'est l'Espagne qui nous envoie. Et c'est M. Jean Dosset qui avait créé toute l'école des compatibilités et des transplantations en Espagne. Donc, il y a toujours une grande affinité. Toujours, il y a eu sa maison au Baléares. Et il allait régulièrement passer l'hiver, sauf que cette fois-ci, enfin pas tellement l'hiver, passer un bon moment, sauf que cette fois-ci, il devait rentrer au mois de septembre, octobre,
2007.
Comme d'habitude, voilà. Quand j'ai lu au téléphone, il m'a dit, mais écoutez, il fait très bon ici, pourquoi vous voulez que je me rende à Paris, qu'il fait froid, il pleut, ah non. Et donc il est resté. Bon, pas ça, c'est...
mais justement, nous parlerons bien sûr de vos relations avec Jean Dosset, oui. Et peut-être aussi avec Jean-Bernard. Donc, comme vous le disiez, en 1976, commence ici votre travail à Paris. Ça commence à l'hôpital Saint-Louis. Vous y restez, oui. Finalement, tout le temps, à l'hôpital Saint-Louis. Oui. Vous allez occuper différentes fonctions au fur et à mesure de ces années, jusqu'à aujourd'hui. Pendant un temps, vous partez en congé sabbatique aux États-Unis.
Tout à fait. Je pars d'une part à Lyon, c'est au moment que M. Jean Dosset devient prix Nobel.
En 80, donc.
En 80. 81, donc, M. Mitterrand monte au pouvoir. Et M. Jean Dosset prend sa retraite, je crois que c'est 82 ou 83, en tant qu'hospitalier et à l'INSERM. Mais il était professeur au Collège de France.
Oui.
Et alors, à ce moment-là, donc il installe son laboratoire au Collège de France. Et à ce moment-là, il invite Daniel Cohen et moi-même le rejoindre au Collège de France. En ce qui me concerne, c'est Dr Charles Mérier, qui avait l'Institut Mérier, qui devient Pasteur Mérier tout de suite après, qui me demande, ou plutôt demande à Jean Dosset, de me permettre d'organiser son département d'immunologie. Chose que j'ai fait contre la volonté de M. Dosset, parce que il faut savoir qu'en 82, un chercheur, car j'étais à l'INSERM à l'époque, et on était contractuel, on n'était pas des fonctionnaires, qui quittait la fonction publique pour se rendre dans une fonction privée, même si c'était pasteur marié, c'était...
assez mal vu.
En tout cas, n'était pas bien vu. Et les remarques, c'était assez important. Et M. Dosset, il disait, mais comment vous allez partir? Il n'était pas content, vraiment. Hein. Pendant 6 mois, il disait, mais non, c'est pas normal que vous êtes parti, etc. Alors, néanmoins, bon, j'ai fait cette expérience. Curieusement, Jean-Bernard, il était tout à fait d'accord. Il m'avait dit, parce qu'évidemment, je n'allais pas faire une chose sans les consulter. Et il m'avait dit, écoutez, c'est une bonne expérience, mais ne restez pas plus de 3-4 ans.
Effectivement, vous restez 4 ans, je crois.
Et j'irai bien. Alors, entre-temps, je pars, je m'excupère à Birmingham, Alabama, dans une période sabbatique, une année sabbatique aux États-Unis. Et donc, mais j'ai resté fidèle à l'hôpital Saint-Louis et à mes maîtres, Jean Dosset et Jean Bernard.
Mm-hmm. Et quand vous revenez des États-Unis, vous retournez encore un peu à Lyon.
Alors, je retourne un peu à Lyon et voilà comment les choses vont se passer. Je retourne un peu à Lyon. À ce moment-là, on me nomme directeur de département d'immunologie. Lyon n'avait pas, depuis 2 ans, je crois, le directeur de l'Institut Pasteur n'était pas nommé. Et on va me proposer au poste de directeur de l'Institut Pasteur de Lyon. C'est M. de Bernard, d'ailleurs, qui m'a fait la proposition de passer l'audition. Et ma première question, c'était pourquoi moi ? Parce que je n'étais pas un pasteurien. Et ma deuxième réaction, c'était demander à M. Dosset et à M. Jean-Bernard, que pensez-vous ? Alors,
M. Dosset, vous pouviez déjà deviner sa réaction, non ?
Alors, M. Dosset, il va... M. Dosset, il m'a dit, écoutez, je verrai ça, je vous téléphone dans 24 heures. Alors, j'étais très content, n'est-ce pas, de ces propositions. Mais par contre, quand il me téléphone, il m'a dit, écoutez, non, je ne vous le conseille pas. Je ne vous le conseille pas, vous êtes mon disciple, et je crois que vous avez encore des longues années à donner à la recherche, plutôt qu'entamer quand même une carrière qui va être administrative, car c'est une organisation dont, non, je vous êtes libre de faire comme vous l'entendez, mais je ne vous le recommande pas. Et termine son conseil en disant, mais je croyais que vous vouliez rester. Alors, vous ne voulez pas rester ? Je dis, non, monsieur, vous savez très bien que j'y retournerai. C'était une expérience magnifique, ce que j'ai fait, mais j'y retournerai. Bon, très bien. Évidemment, je retire ma candidature. J'ai retiré ma candidature avec un certain pincement cœur. Et quelques temps plus tard, donc, monsieur Dosset me propose de revenir.
De revenir à l'hôpital Saint-Louis.
À l'hôpital Saint-Louis, prendre l'unité et en même temps rentrer au commissariat d'énergie atomique. Donc voilà que je me revois à nouveau à Saint-Louis avec mes anciens collègues et confrères.
Nous marquons une première courte pause, si vous le voulez bien, Edgardo Carosella. Nous reparlerons bien sûr de la suite de votre carrière dans quelques minutes.
D'accord.
À tout de suite.
Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe. Vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléant, on croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
Suite de notre émission en habit vert, toujours en compagnie d'Edgardo Carosella. Dans cette deuxième partie d'émission, vous nous avez laissé à la porte de l'hôpital Saint-Louis, où vous revenez. Vous revenez donc en 1991, à l'appel de Jean Dosset.
Absolument, absolument. C'est 90 exactement, 91, oui, tout à fait.
Et donc, vous occupez à ce moment-là le poste de directeur de l'unité de recherche sur la biologie des cellules souches hématopoïétiques.
Absolument. Donc, je prends un peu la suite. Il y en a un fait nouveau qui va s'additionner, c'est Tchernobyl. C'est les conséquences de Tchernobyl. Et donc, le commissaire de l'époque, M. Teillac, va demander à M. Jean Dosset de réunir un conseil des sages. M. Dosset l'a fait autour de M. Toubiana pour tirer les conclusions, surtout au niveau de santé.
Évaluer les conséquences.
Évaluer les conséquences. Évidemment, vous savez que les premiers tissus affectés dans un accident des irradiations ionisantes, c'est les tissus liquides, dont le sang.
Oui.
Et bien sûr, ce qui les fabrique, la moelle osseuse.
Donc les leucémies.
C'est-à-dire, il y a d'abord, suivant les doses et l'irradiation, une aplasie dans un accident, une aplasie des moelles. Donc la moelle, il s'arrête, est détruite, il s'arrête de produire les globules rouges, les globules blancs, dans tous les éléments sanguins. Mais il peut ensuite, cette irradiation, par l'effet des mutations, entraîner l'apparition des leucémies. Donc, c'est à ce moment-là, 91 plus ou moins, enfin un petit peu à 80, avec Eliane Gluckman, qu'on avait travaillé déjà ensemble, bien entendu, on était toujours ensemble. Et les sœurs ont fait la première greffe du sang des cordons. C'est Mme Gluckman sur des malades de Fanconi. Et là, ça ouvre une perspective très intéressante. dans lequel le CEA, d'ailleurs ses premiers travaux étaient signés avec l'équipe du CEA, et les parties prenantes, car ouvre la possibilité des greffes des cellules souches à partir du sang des cordons,
oui.
Donc quelque chose qui jusqu'alors on jetait, et pas seulement des moelles osseuses.
Oui, parce que riche en cellules souches.
Exactement. Donc la grande difficulté toujours parfois, c'est de trouver les donneurs, parce qu'on donne vivante, n'est-ce pas ? Et il faut trouver les donneurs et aspirer la moelle osseuse. Tandis que là, on pouvait constituer une banque des cellules souches à partir du sang des cordons. Et c'est les choses qu'on fait, on commence à travailler sur cet aspect des cellules souches, des sangs des cordons, qu'aujourd'hui, c'est une source très importante. D'autant plus que vous savez, on ne dit pas assez, mais par exemple, dans les communautés très peu représentées, hein, quand vous trouvez un donneur, en dehors de ces communautés, il est difficile de trouver un donneur qui soit compatible. Par contre, si vous prenez les sangs du cordon de ces communautés, vous allez les trouver. Et ça va non seulement simplifier, mais on va donner beaucoup plus de chances aux patients qui l'attendent. Donc au départ, on va beaucoup travailler sur les cellules souches hématopoïétiques, sur la greffe. De toute façon, c'est toujours avec M. Dossé, j'ai travaillé sur l'histocompatibilité et la transplantation.
Oui.
Donc là, on va reprendre, on va dire jamais je l'avais quitté, parce que j'avais continué à travailler dans la transplantation aussi, mais on va reprendre cette activité et on va constituer cette unité à Saint-Louis.
Vous parlez du cordon ombilical.
Oui.
Vous avez également travaillé, en tout cas vous avez contribué de manière décisive à la compréhension de la tolérance fœto-maternelle à travers la molécule HLA. Et justement, pour parler de cette fameuse molécule HLA, il y a très peu de temps, ici à l'Académie des sciences, un colloque, ou en tout cas une séance consacrée à la transplantation.
Oui.
Et donc ces molécules HLA ont eu beaucoup de succès, on en a parlé
voilà.
Dans tous les sens. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces travaux ?
Voilà, tout d'abord, les molécules HLA sont des antigènes d'histocompatibilité qui se trouvent à la surface cellulaire. C'est-à-dire que de même que à la surface des globules rouges, il y a des marqueurs qui s'appellent A, B, R, H et qui permettent la transfusion sanguine d'un individu à l'autre en état de compatibilité, il existe dans la plupart des cellules de l'organisme des antigènes que nous appelons d'histocompatibilité, les antigènes HLA, Human Leukocyte Antigen. Mais ces antigènes sont beaucoup plus complexes que les marqueurs de globules rouges. Par ailleurs, la combinaison de l'ensemble de ces antigènes dépasse 2,5 fois les nombres d'habitants sur la Terre. Autrement dit, pour trouver deux individus identiques, et c'est ces antigènes qui permettent la greffe d'organes,
oui.
C'est presque impossible. Ce qui a permis à M. Dossé, au moment de son prix Nobel, de dire que l'homme est unique. Il ne peut pas avoir deux.
Donc là, ces HLA provoquent le rejet automatique.
Voilà, c'est-à-dire que ces antigènes HLA sont en réalité les antigènes du soi. Donc les cellules vont reconnaître les soi du non-soi à partir de ces antigènes. Donc c'est quoi ? Ce sont en définitive des antigènes des différences, mais aussi des défenses. Parce qu'ils sont eux-mêmes qui vont présenter, par exemple, des peptides bactériennes, virales ou autres. Alors, moi, j'avais travaillé avec M. Dossé sur une certaine catégorie des antigènes qu'on appelle des classes 2. Tous les deux, on était d'abord les premiers à définir les antigènes HLA-D.
Oui.
Dont les classes, ce qu'on appelle les classes 2. Et en ce qui me concerne, j'avais davantage développé tous les lymphocytes suppresseurs et les facteurs suppresseurs. Donc tout ça, ça date des années 78. Quand on revient plus tard, les équipes internationales les appelant des cellules T-régulatrices, avec un phénotype, etc. Bon. Néanmoins, une question s'est posée avec M. Dossé. Pourquoi la mère ne rejette pas son enfant ? Car pour la moitié, ces antigènes appartiennent au père.
Au père, oui, oui.
Et si on greffait, si on ferait une petite greffe, peu importe de quoi, même un petit morceau de peau, dès l'enfant nouveau-né à la mère,
elle devrait le rejeter.
Et les rejette immédiatement. Mmh. Alors pourquoi quand même pendant 9 mois, ils tolèrent, ils habitent parfaitement la mère avec l'enfant ? D'autant plus que, au niveau des placenta, au niveau des cytotrophoblastes, c'est les tissus qui infiltrent l'utérus maternel, n'a pas d'HLA. Alors ces questions, ça nous tournait depuis un moment. Et en 1988, exactement, il y a les séquençages entiers du chien HLA, et on considère un groupe d'antigènes, sans dire pas plus, qu'il est non classique. On l'appelle non classique. En 89, ils définissent par séquençage que ce groupe des antigènes HLA non classiques sont constitués des antigènes HLA G, E, F et H. Alors, j'ai dit à M. Dossé, c'était les jours de son anniversaire d'ailleurs, le 19 octobre, j'ai dit, écoutez, je suis sûr qu'il faudrait que nous travaillions sur HLA G qui vient d'être séquencé, car probablement c'est cet antigène qui intervient dans la tolérance fœto-maternelle. Me dit Souhaite, comme toujours très enthousiaste. Immédiatement, je me mets à travailler et mon équipe est les premières à démontrer qu'en effet, cette molécule HLA-G bloque complètement l'attaque, je dirais, des cellules immunitaires maternelles vis-à-vis des cellules qui les portent. Et donc, toutes ces cellules, par exemple, naturelles killers, qui se trouvent infiltrant la déciduelle maternelle, c'est-à-dire l'utérus, au moment de l'implantation de l'œuf fécondé, eh bien, il reste sans activité. Et nous sommes les premières à démontrer ex vivo, à partir des prélèvements issus des interruptions volontaires de grossesse, dont avec des cellules de la mère et des cellules de l'enfant, d'un part, de son propre enfant, que c'est la molécule HLA-G qui bloque toutes les réactions. Et on va un peu plus loin en prenant des cellules de la mère à des cellules des autres enfants. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle la mère porteuse.
Oui.
Mais aussi l'exemple d'une greffe.
C'est ce que j'allais dire. Je suppose qu'après, vous allez pouvoir utiliser ces antigènes HLA-G dans le cas de greffe.
Alors, je viens. Donc, nous sommes les premières à montrer les rôles essentiels de la molécule HLA-G dans la tolérance fœto-maternelle. On va les démontrer ensuite aussi que cet HLA-G est absent dans les avortements à répétition, qu'il y a une corrélation dans les fécondations in vitro entre les réussites des implantations et les titres de HLA-G. Par la suite, il va y avoir, pas par nous, mais par notre équipe, les souris transgéniques. Donc, bref, tout le monde va confirmer ce que nous montrons. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'on avait décrit au sein des antigènes d'histocompatibilité, des antigènes des différences et des défenses, des antigènes de tolérance, chose qui n'était pas décrite, ni connue, ni pas imaginable aussi. Mais la tolérance, c'est en quelque sorte comme un revolver. Tout dépend de quel côté on se trouve.
Ça peut provoquer aussi une accélération des cellules cancéreuses, par exemple.
Et donc, si vous trouvez des bons côtés, c'est la transplantation. Si vous trouvez des mauvais côtés, c'est le cancer. Et nous allons partir immédiatement, et donc en 96, dans les cas de la transplantation et du cancer. Dans les cas de la transplantation, c'est avec le professeur Carpentier que nous étudions les comportements des premières greffes sur les greffes cardiaques.
Alain Carpentier, donc.
Alain Carpentier, bien sûr. L'expression d'HLA-G. Et que nous démontrons ensemble qu'en effet, il y a une corrélation parfaite entre l'expression d'HLA-G et la diminution des nombres de rejets aigus, des 4 passés à 0,5, et l'absence de rejets chroniques. Ces résultats ont été largement confirmés.
Mais il me semblait que les rejets aigus étaient essentiellement des rejets dans le cadre de grève de rein, par exemple.
Non, non, il peut y avoir
dans
tous les organes solides, il y a des rejets aigus. Alors, immédiatement, on regarde les cellules tumorales. On va biopsier. J'ai eu beaucoup de chance parce que je vais avoir un malade dans lequel je trouve la lésion, c'est-à-dire les mélanomes. Alors, on choisit les mélanomes. Ce n'est pas par hasard qu'on choisit les mélanomes. Car les mélanomes, c'est une tumeur, à ma connaissance, décrite tout au moins, les seuls qui donnent des métastases au placenta. Et les seuls aussi qui partagent des gènes, comme MAGE, avec les placentas. Les placentas, on pourrait dire que c'est un tissu qui parfois peut se comporter comme un tissu un petit peu maligne, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a un autre pouvoir mitotique, il y a une différenciation, il est invasif, puisqu'il y avait... Peut-être que c'est excessif de le dire ainsi, mais quand même. Mais à partir de la base, que les mélanomes, il y avait certains gènes en commun et qu'ils donnaient des métastases en placenta, je m'adresse donc en premier lieu aux mélanomes. Et j'ai la chance d'avoir un malade avec un mélanome dont la lésion primaire.
Oui.
Vous avez, au centre de ces lésions premières, la régression de la tumeur, chose que c'est qui arrive dans ce type de tumeur, de néoplasie, et la métastase ganglionnaire. Donc, si j'avais biopsié la métastase ganglionnaire, j'avais étudié plutôt la métastase ganglionnaire, les tumeurs premières et la partie centrale des tumeurs premières en régression, plus la peau normale du même malade, tout à fait à côté du mélanome. Et l'observation, il est net et clair. La lésion première et les ganglions expriment fortement chez l'âgé. Les tumeurs en régression et la peau saine n'expriment pas chez l'âgé. Donc, que ces boucliers qui constituent la molécule HLAG, cette égide qui protège les cellules fœtales de l'agression maternelle, pouvait aussi protéger la tumeur de sa dissémination et progression. Celle-ci, en 98, on va dire, oui, il fallait les dire. La communauté était un petit peu, il se demandait si ça si c'était qu'il fallait confirmer,
oui,
donc
il s'est
mis tout le monde à les confirmer, et aujourd'hui il est accepté, et non seulement accepté, que dans certaines tumeurs, et surtout par exemple des tumeurs d'ovaire, c'est les groupes américains qui ont fait une étude remarquable, ils l'utilisent par exemple comme marqueur complémentaire de l'évolution, et quand il y a des doutes si c'est un tumeur d'ovaire maligne ou pas, il s'utilise HLHG. C'était une étude présentée aux dernières conférences internationales sur HLHG en 2006, purement pathologique, donc, et qui a encouragé toute la communauté. Mais maintenant, voilà que ces trois aspects. Néanmoins, ça ne s'arrête pas là. Nous continuons sur ces deux axes, mais HLHG, il a évolué dans des autres domaines, comme les lupus, comme les maladies auto-immunes. Ce n'est pas nous qu'on a décrit ça, mais nous avons donné toutes les bases immunologiques, justement, qui ont permis à la communauté internationale d'aller dans ce type de maladies. Et même les gens de Pasteur, ils avaient trouvé une corrélation avec les virus herpès et les virus, l'infection des virus herpès et l'infection des virus de la rage. C'était Monique Lafont à l'Institut Pasteur.
Alors je suppose que cet antigène HLA, pour le coup, s'il y a une transplantation, on pourrait l'utiliser pour éviter le rejet, mais tout en ayant des risques parallèlement de cancer.
Alors, c'est une très bonne question d'ailleurs qui se pose régulièrement et que nous nous sommes posé au départ. En disant, bon, si c'est un antigène de tolérance, on va induire des cancers. Et maintenant, dans les cas de transplantation, d'abord, dans tous les cas, l'incidence des tumeurs, surtout que les greffés de rang, ils peuvent faire davantage de tumeurs cutanées par exposition au soleil, oui, aux UV, eh bien, on n'a pas trouvé, nous-mêmes, ni les autres équipes, une incidence plus importante et l'apparition des tumeurs que dans les groupes contrôle. Donc là, on est aujourd'hui assez catégorique, car on ne fait pas une tumeur comme ça. C'est-à-dire que pour faire un tumeur, il faut des gènes, il faut des mutations.
Une prédisposition ?
Plus qu'une prédisposition, il faut plusieurs mutations dans une cellule pour qu'elle devienne cancéreuse. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un antigène de tolérance qu'on fait un tumeur. Oui. Il va faire un tumeur si ces mutations existent dans la cellule, mais pas comme ça. Donc c'est pour ça que le raisonnement, il est bon, mais peut-être est un raccourci pas tout à fait exact.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause, Edgar de Carosella, dans la troisième partie. Nous parlerons cette fois-ci de la science, mais également un peu de la philosophie, c'est-à-dire de l'identité changeante de l'individu.
D'accord.
À tout à l'heure.
Marguerite Yourcenar fut la première femme écrivain élue à l'Académie française. Canal Académie consacre 4 grandes émissions aux différents aspects de son talent, son œuvre romanesque, son érudition et son travail de traductrice. Marguerite Yourcenar, une citoyenne du monde, 4 émissions sur Canal Académie.
Suite de notre émission en habit vert, toujours en compagnie d'Edgardo Carosella, grand immunologiste, correspondant de l'Académie des sciences. Cette troisième partie, Edgardo Carosella, et il faut quand même le préciser, l'équipe que vous dirigez fait partie aujourd'hui des premières équipes citées dans les publications scientifiques dans le cadre des recherches sur l'antigène HLA-G.
Oui, en effet, c'est une très belle aventure, hein, parce qu'au départ, personne ne croyait vraiment beaucoup à HLA-G. On s'est demandé pourquoi il choisit G ou pas E, pas H, pour ce qui n'est pas non classique. Bien. Et aujourd'hui, non seulement nous sommes cités dans tous les livres d'immunologie américains, HLA-G fait référence à nos travaux, donc c'est pas mal déjà d'être dans un livre de texte. Par ailleurs, c'était sujet du bac. HLA-G. C'était le sujet du bac, maintenant que vous me dites ça, en 1999 ou 2000, je me rappelle très bien la date. Je me rappelle très bien qu'il y a un copain qui vient et me dit « Écoute Edgardo, alors comment tu as fait pour que ton sujet soit sujet du bac cette année ?» Alors je croyais qu'il m'était taquiné un peu, et pas du tout. Les sujets, c'était mes premières expériences sur HLA-G. C'est rare d'avoir cette odeur. Aujourd'hui, vous savez que nous sommes tenus, les chercheurs, de publier et nous sommes classés par les publications des facteurs d'impact, oui. Mais surtout aussi les nombres de fois que les autres équipes nous citent. Eh bien, notre équipe, dans l'ensemble des citations dans le monde entier sur HLA-G, notre équipe occupe les 10% des citations. C'est énorme. C'est-à-dire, dans l'ensemble des citations sur HLA-G dans le monde entier, et notre équipe, qui s'est trouvée une petite équipe, représente les 10%. C'est quand même une fierté.
C'est une reconnaissance aussi du monde scientifique pour vos travaux.
C'est une reconnaissance du monde scientifique. C'est une fierté d'avoir, pour moi, c'est surtout une fierté d'avoir mis la France dans ces sujets en un des premiers rangs. Mais surtout, je ne vous cache pas, la fierté d'avoir continué la lignée de M. Dossé et que ça continue avec mon équipe et ensuite l'association de mon équipe.
Pour terminer cette émission, parlons un peu de l'identité changeante, qui était donc l'intitulé d'un colloque que vous avez organisé, qui mêlait à la fois les membres de l'Académie des sciences, de l'Académie des sciences morales et politiques et de l'Académie pontificale. C'est un sujet qui vous tenait à cœur. Pourquoi avoir travaillé là-dessus, je suppose d'ailleurs pendant au moins un an ou deux ans, sur ce sujet?
Tout d'abord, l'effet que j'ai fait pratiquement 11 ans, oui, 11 ans ou 12 ans chez les jésuites, en même temps que la formation scientifique des études de médecine, j'étais obligé de faire une formation humaniste, donc philosophie et théologie. Alors, c'était très utile. Cette formation, je ne vous cache pas, je ne l'utilisais pas pendant nos années, enfin, je ne m'en servais pas. Mais à un moment donné, puisque j'ai commencé à co-diriger les tests de philosophie des sciences de la Sorbonne avec M. Gaillon, donc j'ai commencé parfois avec les étudiants de EA à l'école normale et je les amenais jusqu'à la thèse, alors je me suis intéressé davantage. Justement, c'était ça en question, qui était d'ailleurs l'élève d'un de nos compagnons, M. Debru. Il est venu me demander sur quoi on peut travailler. Et alors, je lui ai proposé les sujets de l'identité. Pourquoi l'identité? Eh bien, depuis nombreuses années, plusieurs disciplines biologiques, et tout particulièrement la génétique et l'immunologie, ont emprunté à la philosophie les termes de soi, d'identité, d'individualité. Toute la difficulté est de fonder l'usage les plus clairs et les plus assurés de ces concepts. Alors, il m'est venu à l'esprit de faire une première réunion interacadémique entre l'Académie des sciences et l'Académie des sciences morales et politiques. Et j'ai eu encore la grande chance que M. Mesmer me suit et me dit « Formidable, on va les faire. » Je trouve des hommes qui m'ont, des compagnons encore, qui m'ont beaucoup aidé, c'est une grande chose, comme M. Saint-Cernin, M. Terré, qui m'a stimulé et dit absolument, on y va. Et on fait la première réunion, dont l'objectif était de définir l'identité de l'individu.
Il y avait aussi le cardinal Ratzinger, qui à l'époque devait participer
alors,
à
voilà.
Ce colloque.
Alors,
depuis
en effet,
Benoît XVI.
En effet, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'était 2005, au mois de mars, j'ai adressé les invitations à tous les membres de l'Académie des sciences, l'Académie des sciences morales et politiques, dont Monseigneur Retzinger, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Il est élu pape, et donc il me répond en tant que pape, en me disant, je ne pouvais pas me rendre, évidemment, mais je suivrai cette première conférence avec beaucoup d'attention, et je dépêcherai un représentant de l'Académie pontificale pour que se rende à cette rencontre, chose qui était faite. Alors, vous voyez, si les manières de définir notre identité sont nombreuses et diverses, un élément d'analyse clair s'est clairement dégagé. C'est l'identité humaine est toujours contextuelle et relationnelle. Elle ne se comprend jamais par isolement avec autrui. Autrement dit, l'autre est au cœur de notre identité. Alors, les sciences sociales, dont nos collègues des sciences morales et politiques, ils avaient mis en évidence cela depuis longtemps. C'est depuis peu de temps, en quelque sorte, que les sciences biologiques tendent à trouver une conclusion similaire. Et alors, ils sont arrivés, donc, à démontrer que l'organisme, loin d'être parfaitement autonome, est pénétré d'altérité. À ce moment-là, nous arrivons donc à l'organisation de la Lucien Conférence, des Lucien Rencontres. Mais cette fois-ci, va être piloté d'abord par l'Académie des sciences morales et politiques.
Oui.
Encore M. Terret et M. Saint-Sernin, ils vont être des précieuses aides. Et M. le chancelier de Breuil, il va être d'un grand enthousiasme pour continuer cette rencontre qu'a commencé M. Mesmer. Mais on va inviter aussi l'Académie pontificale. Comme vous le savez, c'est une académie scientifique, n'est-ce pas, je dirais, constituée des scientifiques du monde entier, des diverses origines, religions, appartenances et convictions. Donc, il est parfaitement laïque, il n'y a pas de religieuse dans l'Académie pontificale, tout court. Hein. Par ailleurs, un certain nombre de membres de l'Institut de France sont membres de l'Académie pontificale, n'est-ce pas? C'est le cas de M. Paul Germain, par exemple, M. Kerrer, Mme Lédouarin, sont membres de l'Académie pontificale. Donc, on va faire une réunion interacadémique, sciences morales et politiques, Académie des sciences, Académie pontificale, Institut catholique. Deux jours à Paris, un jour au Vatican, dont nous allons rencontrer Benoît XVI, membre de l'Académie des sciences et politiques, et on va travailler pendant une journée à l'Académie pontificale et nous rencontrons une audience privée. Sa sainteté Benoît XVI.
Et l'intérêt, c'était donc de mêler les diverses disciplines, que ce soit la biologie, la philosophie.
Absolument. C'est-à-dire que ces rencontres contribuent à répondre à trois enjeux communs entre les représentantes des sciences expérimentales et ceux des sciences humaines. La première, c'était la question d'identité, se pose avant tout pour l'humain. La deuxième, c'est l'identité doit se comprendre dans ses rapports avec l'altérité. Et la troisième, que c'est tout à fait important, c'est toute identité est en évolution permanente. Ce n'est pas quelque chose de figé. Autrement dit, cette identité qui naît dès les premiers jours de la fécondation de l'œuf par les spermatozoïdes, il ne reste pas figé. Il va évoluer tout au long de la vie. Tout en restant nous-mêmes, il va évoluer. Et c'est ces trois points essentiels qui se sont dégagés de cette réunion.
Et c'est sur cette dernière phrase que nous allons arrêter cette émission. Edgardo Carosella, vous parliez donc de ce fameux colloque sur l'identité changeante que vous avez organisé. Eh bien, je précise à nos auditeurs que nous avons quelques interventions que nous rediffusons sur notre site, que l'on trouve en libre écoute et libre téléchargement. Également, nous avons parlé des transplantations en rapport avec vos travaux. Nous avons également sur notre site internet, et nous invitons également nos auditeurs à télécharger cette retransmission de séance, de conférences d'Olivier Letona et de Christophe Legendre sur le travail de transplantation. Et puis également, vous avez évoqué Jean Bernard. Et de la même manière, nous avons des hommages à Jean Bernard. Et de la même manière, nous invitons nos auditeurs à télécharger ces deux, voire trois hommages faits à Jean Bernard. Merci Edgar de Carosella de m'avoir rendu visite ici à Canal Academy. Vous repartez, je suppose, à l'hôpital Saint-Louis.
Absolument, on n'est pas loin.
Eh bien, alors, bon retour. Et puis, j'espère à une prochaine fois pour un prochain colloque.
Avec grand plaisir.
Au revoir.